Quartier des Ondes, the voice of the street.
Quartier des Ondes, la voix des quartiers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier des Ondes, la radio associative du Blône. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 8e numéro de l'émission Chantier Social. Ici, on construit et déconstruit des enjeux de société, on façonne de nouvelles idées et des lignes directrices vers un monde plus juste. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, c'est Margot derrière le micro. Alors, vous le savez, chaque mardi, pendant un mois, on aborde une thématique de société qu'on vient interroger en rencontrant des acteurs et actrices engagés sur le territoire rennais. Et pour conclure la série d'émissions consacrées à l'espace public, on accueille Marion de l'Agence Sensible. Dans cet épisode, on aborde le projet de cartographie sensible qui donne à voir des ressentis, des témoignages et anecdotes de celles et ceux qui habitent le quartier de Villejean. D'ailleurs, c'est précisément le but d'une carte sensible. C'est une méthode de restitution de l'expérience du territoire qui valorise le récit des habitants. En complément d'une approche géographique traditionnelle, il s'agit de s'intéresser aux sens, aux perceptions et aux représentations, mais aussi aux souvenirs et aux rêves de celles et ceux qui habitent les territoires. Bonne écoute sur Quartier des Ondes.
Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
Alors, je m'appelle Marion, je travaille pour l'Agence Sensible. C'est une association qui a été montée il y a 6 ans. Le but de cette association, c'est de créer des projets artistiques participatifs. Donc, des projets artistiques avec des habitants sur des territoires donnés et essentiellement sur des quartiers prioritaires de la ville. C'est des projets longs, qui s'étalent au moins sur 6 mois. Et notre spécificité, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des nichages, c'est-à-dire qu'on installe nos bureaux sur les territoires dans lesquels on travaille. Donc on va chez des partenaires et on niche, donc on se pose pendant 5 à 6 mois chez le même partenaire. Et on fait plusieurs nichages comme ça au sein d'un même quartier. L'idée étant qu'en étant présent sur le quartier, on est au plus près des envies et des besoins des habitants et des acteurs de ce quartier.
Et justement, si je t'ai invité aujourd'hui dans le studio de Quartier des Ondes, c'est que vous avez posé dernièrement vos bureaux au centre social de Villejean. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Villejean?
Alors, l'histoire de ce projet-là, elle a commencé il y a 1 an et demi. Quand l'Université de Rennes 2 nous a proposé de venir faire des cartes sensibles de l'université avec des étudiants de plein de filières différentes. Donc on a répondu à cette invitation et on a donc produit 3 cartes sensibles du campus. Donc une carte sensible, c'est une carte qui ne montre pas uniquement des données géographiques, mais qui va aussi intégrer des données sensibles, donc des ressentis, des histoires du quartier, voilà, plein de petites choses qui vont donner du coup plutôt une vision sensible et pas une vision uniquement géographique du territoire donné. Donc on a fait ces 3 cartes avec les étudiants, enfin on les a accompagnés plutôt. Et ces 3 cartes, il y en avait une qui montrait la vision des étudiants sur le campus, une qui montrait la vision des habitants sur le campus et la dernière, la vision des personnels. Suite à ce travail-là, on nous a soufflé et on a trouvé judicieux de poursuivre ce boulot-là à l'échelle du quartier. Donc ça a pris un petit peu de temps entre le moment où on était à l'université de Rennes 2, on a monté d'autres projets entre et puis on avait un peu ça en tête. Et donc voilà, il y a eu un moment où les choses se sont alignées et où on a pu donc s'installer dans le centre social de Villejean avec un peu cette envie de continuer à travailler sur une cartographie sensible. Alors, pas uniquement parce qu'à l'Agence Sensible, on est jamais très fort pour faire des projets très simples. Il y a toujours plein d'objets, plein de trucs en même temps. Mais il y avait cette idée, cette volonté, en tout cas, de valoriser le territoire et valoriser les habitants par le biais d'un objet cartographique.
Est-ce que cette idée de valorisation, elle répondait à un besoin particulier? J'imagine que oui.
Évidemment. De façon globale, il nous semble que c'est très très important de produire des récits positifs, qu'on est entouré dans notre monde de dystopies, de choses atroces dans les fictions et puis même dans notre actualité, nos quotidiens, voilà. Et que si on ne crée pas des récits positifs, on n'arrive pas à penser le positif dans nos vies et on n'arrive pas à trouver des solutions positives aux choses. Ça, c'est une première chose. Et bah, évidemment, sur les quartiers populaires de la ville de Rennes, ce qu'on entend sur ces quartiers-là, ce sont des choses très négatives. On parle beaucoup de deals, on parle beaucoup d'insécurité. Et ces infos-là passent sous silence tout ce qu'il y a aussi de positif sur ces quartiers-là. Donc nous, ce qui nous semble important, c'est... Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de problème à Vigeon, mais de dire, oui, il y a ces choses-là, mais il y a aussi tout un tas de choses formidables, il y a tout un tas de dynamiques positives dans ce quartier, et c'est ça qu'on veut donner à voir. Parce que ça, on ne le montre pas assez. Voilà, donc c'est ça qui nous tient un peu dans cette histoire de comment on construit des récits positifs.
C'est intéressant parce qu'au regard du récit médiatique qui est produit sur le quartier de Villejean, on voit beaucoup cette omniprésence de d'Al Kennedy. Et je trouve que votre carte, enfin c'est intéressant aussi on parle de quelque chose qui est très visuel et là on essaye de le mettre en mots. Du coup, je pense que peut-être qu'on pourra aussi donner un peu quelques détails tout à l'heure, quelques anecdotes moi qui m'ont beaucoup marqué. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant aussi de sortir le quartier de cette omniprésence, omnipotence de la dalle et d'aller voir un petit peu quels sont les endroits qui ont un sens et qui ont aussi un... Il y a une dimension géographique, mais comme tu dis, dans la cartographie sensible, il y a aussi, on oublie souvent que, en fait, les territoires, ils ont une histoire par le lien que les gens entretiennent avec certains lieux. Et je trouve que la carte sensible, elle permet beaucoup de montrer ça. Et je trouve que dans les médias, on ne se rend pas nécessairement compte qu'en fait, il y a un lien très très fort. Et surtout, moi, je suis habitante du quartier de Villejean et je trouve qu'il y a un lien très très fort avec le territoire. Et que cet outil de la cartographie sensible permet de montrer à quel point on est lié à nos territoires. Enfin, c'est dans le quartier de Villejean, mais je pense que c'est aussi dans plein d'autres territoires, en fait. On est comme... Il y a un lien qui se crée avec nos espaces de vie, quoi.
Ben oui, bien sûr. Il y a vraiment cette idée de se dire que l'endroit où on vit... Alors, je ne vais pas dire qu'on finit par l'aimer, mais si, quelque part, on se l'approprie et on finit toujours par l'aimer. Il y a juste ces histoires qui font qu'à un moment donné, ce café, ce n'est pas juste un café, c'est le café dans lequel ma meilleure amie m'a dit qu'elle était partie au Canada, qu'elle allait partir, ou dans lequel, je ne sais pas, j'ai vécu une rupture. Forcément, ce qu'on vit dans les endroits qui sont proches de nous vont donner une couleur en fait à tous ces endroits et vont faire que petit à petit on commence à de toute façon apprécier ces endroits. Donc forcément il y a les habitants un peu historiques du quartier de Villejean qu'on a pu croiser ont un attachement très fort à ce quartier. C'est vraiment très marqué. C'est vraiment très marqué. Ça ne les empêche pas, dans un premier temps, de dire « il y a des problèmes ». Ça, c'est toujours... c'est la démarche de faire des entretiens et de prendre le temps avec les gens. Et ça, c'est vraiment important parce que si on va juste récupérer de la parole sur du temps très rapide, ce qui va sortir ne va pas être forcément très intéressant. Si on ne creuse pas. Et puis, il va être souvent négatif. D'abord négatif. Et après, quand on creuse... arrivent des choses plus sensibles, plus positives, plus intéressantes, plus riches, et qui vont parler de ce rapport-là au quartier.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, l'année dernière, je faisais un stage à la maison de quartier de Villejean, et j'ai monté un projet radiophonique, et j'ai fait des ateliers d'éducation aux médias avec des jeunes adultes au SPOT, c'était le local jeunes adultes, et j'ai eu 3 jours d'atelier, et le premier jour, j'ai pris plein de titres d'articles du Ouest France, et j'ai demandé aux jeunes, écrivez-moi, prenez un titre qui est sur la table, et écrivez-moi, essayez de vous imaginer comment l'Ouest-France pourrait parler de Villejean. Et c'était hyper intéressant à quel point les jeunes n'ont écrit aucun récit positif sur le quartier de Villejean, ont écrit des choses qui étaient très négatives, associées à la violence. Et je trouve que ça revient à ce que tu dis sur si on n'a pas de récit positif, en fait, on ne peut pas se raconter au travers du quartier ou raconter quelque chose de positif sur le quartier puisqu'il n'existe pas de récit positif.
Ça demande un effort en vrai. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une... ça demande un effort de construire des récits positifs. Si on nous dit « pense ton futur dans 20 ans », tu vas aller vers des trucs catastrophiques. C'est obligé. Si tu ne te forces pas, si tu ne prends pas cette habitude de penser du positif, tu n'y vas pas. En fait, on est trop noyé de choses négatives. Donc, c'est logique que les jeunes avec lesquels tu es bossé, ils racontaient des trucs. Puis en plus, pour le coup, sans doute, c'était vraiment ce qu'il y avait dans les articles.
Oui, c'était ça. Et que comme les représentations médiatiques sur le quartier, c'est tout le temps les mêmes, ça revient toujours, c'est difficile de s'imaginer un autre récit. Et d'où l'importance aussi de se réapproprier à la fois l'image du quartier ou l'image médiatique. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le lien aussi qu'on entretient à un espace géographique. C'est que je trouve que c'est entrelacé. Enfin, ces questions-là, elles sont éminemment entrelacées. C'est que si on a une représentation stigmatisante ou négative de l'endroit dans lequel on vit, je trouve que ça impacte aussi sur l'estime de soi et l'estime qu'on a de l'endroit où on habite, quoi. Enfin, c'est un peu... je trouve qu'il y a un lien très, 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 très fort avec ça.
Oui, t'as raison. Après, je pense qu'on peut aussi... Alors, pour le coup, moi, j'habite au Boulogne.
Et à la maison aujourd'hui, alors.
Je suis pas loin, chez moi. On peut aussi, du coup, à l'inverse, je trouve... aussi, sans doute parce que je travaille là-dessus. Avoir l'impression de porter une mission, de réhabiliter son quartier. Parce que, effectivement, on l'aime. Au final, on l'aime et on y voit aussi les choses positives. Et... alors, t'as raison, on peut se morfondre d'habiter dans un quartier et on peut aussi peut-être se dire, je vais essayer d'en donner une autre image. Mais c'est un travail infini et compliqué.
Et justement, là, dans ce travail de cartographie, ça a été quoi comment on réhabilite l'image de son quartier? Comment on le raconte? Ça a été quoi un peu les outils méthodologiques que vous avez mobilisés?
Alors nous, on a eu envie... Alors il faut toujours choisir un peu un axe quand on fait une carte, parce que sinon c'est trop compliqué. Une carte sensible, on pourrait en faire 10 000 de Villejean, enfin bien plus. Chaque personne qui fait une carte de Villejean, une carte sensible de Villejean ferait une carte différente. Donc il faut forcément faire des choix, c'est ça qui est le plus compliqué. Nous, on a eu envie, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une dynamique forte à cet endroit-là, de s'appuyer sur les collectifs d'habitants et les collectifs qui existent à Villejean, pour en premier lieu les interroger, eux, sur ce qu'ils faisaient, sur la vision qu'ils avaient du quartier, puisque eux, on était sûr qu'ils étaient dans une dynamique positive. Donc ça, c'était une première entrée qui nous semblait intéressante. Après, on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'ouvrir aussi à d'autres personnes et pas uniquement de rentrer par ces collectifs et ces personnes dynamiques sur le quartier. Et donc, on a mis en place aussi des marches exploratoires, donc des marches qui étaient ouvertes à tous et à toutes. Donc, il y a eu des étudiants, des habitants, des personnes différentes qui sont venues les faire, où on a mis en place des petits outils, en fait, pour regarder le quartier, faire des trajets un peu différents. On a découpé le quartier en 6 zones et on envoyait, du coup, ces petits groupes faire des repérages, des observations dans le quartier pour nous ramener aussi d'autres types de matières qui étaient plus, cette fois, sensorielles. Encore qu'il y avait aussi pas mal d'observations, enfin, notamment des personnes qui n'habitaient peut-être pas sur le quartier, mais qui venaient faire ces marches exploratoires, pas mal d'étudiants, c'était le cas pour pas mal d'étudiants, nous donnaient aussi des observations qui étaient parfois proches de la sociologie, leur rapport d'étonnement par rapport au quartier. Voilà, toutes ces choses-là sont venues nourrir la carte.
Et est-ce qu'il y a eu des temps avec les habitants et habitantes ? Également.
Alors, les marches exploratoires ont participé à ça.
D'accord.
Et après, nous, on était en fait nichés au centre social de Villejean. Donc, les habitants et les habitantes, on les côtoyait au quotidien. On prenait le café avec eux. Et ça aussi, évidemment, c'est venu nourrir la carte. Les salariés aussi, en fait, du centre social ou du CEDAS qu'on croisait, puisque, en étant sur place, on parle énormément du quartier, forcément, puisque eux sont en lien direct et quotidien avec ce qui se passe à Villejean. Et donc, le centre social, il est vraiment sur la dalle, sur cette fameuse dalle. Tout ça est venu nourrir la carte. On a aussi, nous deux, donc mon collègue et moi, puisqu'on est deux à l'agence sensible, fait des observations, on s'est posé, notamment sur la dalle. On s'est pas mal posé sur la dalle et on a regardé ce qui se passait. Et on était super étonnés de ce qui se passait. Histoire, nous aussi, de pas rester sur nos préjugés et d'essayer de voir un peu différemment les choses.
Qu'est-ce qui vous a étonné ?
Alors, ce qui nous a étonnés, c'est qu'il y a un vivre ensemble de dingue sur cette dalle qui n'existe, je pense, dans pas beaucoup d'endroits de Rennes, qui est dû à plein de choses, qui est dû voilà, à la géographie de cet espace et aussi au mobilier urbain, puisqu'il y a beaucoup d'endroits pour se poser sur cette dalle. Alors oui, il y a des personnes alcoolisées, voilà, sous produits qui sont sur cette dalle, mais alors pas uniquement, mais vraiment pas du tout uniquement. Ça dépend des horaires, ça dépend des, voilà, du temps, de plein de choses. Il y a plein d'autres personnes qui se posent sur cette dalle et tout ce petit monde cohabite.
Est-ce qu'on peut peut-être dire quelques mots sur les différents collectifs, les citer et peut-être en dire quelques mots, ça pourrait être chouette. On prend le petit livret.
Il y a quand même 12 collectifs qui sont cités. Mais on avait aussi un peu une volonté de montrer la diversité aussi de tous ces collectifs et de toutes ces dynamiques collectives. Évidemment, deux centres un peu forts sur le quartier qui accompagnent ces collectifs, c'est le centre social et la maison de quartier. Donc certains sont reliés à un de ces deux établissements et puis d'autres n'ont rien à voir. Donc voilà, on a pu rencontrer par exemple Solo et Forte, qui est une toute jeune association dont le but est d'accompagner des femmes qui peuvent avoir été victimes de violences, mais leur redonner confiance et leur offrir des moments joyeux et collectifs. Donc c'est une association qui est portée par Stella, qui est un personnage incroyable, qui embarquerait n'importe qui, tellement elle est enthousiaste et fédératrice et voilà, et forte. On a également rencontré Cuné, qui est une association qui est plus connue, plus implantée sur le quartier, qui elle aussi, donc est en lien évidemment avec Stella et Solo et Forte. Cuné, c'est une association qui pour le coup regroupe des femmes qui elles aussi ont beaucoup vécu des violences conjugales, et c'est une association qui se bat contre tout type de violence. Donc elles ont pu notamment, elles ont été très présentes après les fusillades, les dernières fusillades à Villejean. Elles ont tout de suite organisé des manifestations sur la dalle, fait descendre les mamans. Voilà, donc ça c'était évidemment un collectif qui nous semblait important à faire apparaître. On peut avoir Vilaine Pousse qui accompagne par exemple les jardins qui sont sur Villejean. Je vais vite sur certaines. On a le Secours Populaire, qui a une antenne à Villejean. Et y a beaucoup du coup de bénévoles qui sont présents au Secours Populaire et qui accompagnent les personnes. À la fois, il y a de la distribution, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'accompagnement, il y a des sorties culturelles qui sont proposées, il y a plein de choses qui sont faites. On va avoir une asso par exemple qui s'appelle Par Handicap, qui est portée par Keltouma, qui est une jeune femme qui a un enfant handicapé et qui trouvait que elle était assez seule dans cette situation et qui donc va offrir un espace de rencontre et de parole à des parents d'enfants handicapés. Alors ce sont uniquement des femmes, mais c'est bien ouvert aussi aux hommes. Voilà, et elle les accompagne. Alors à la fois, il y a des psys qui les accompagnent, mais il y a aussi l'idée de leur proposer des temps de sophrologie, de yoga, voilà, un peu d'autres choses aussi pour récupérer un peu en sérénité, alors que les situations sont quand même très complexes. Il y avait Mosaïque Bretagne-Maroc, dont on a parlé tout à l'heure avec cette fameuse course de dromadaire. Nous avons les thés dansants de Marie-Claude qui ont lieu les samedis une fois par mois à la maison de quartier, où il y a une cinquantaine de personnes qui viennent danser avec de la musique live, qui a, je pense, pris une vraie place dans le paysage. On a aussi rencontré les personnes de Cosmo, donc qui est l'habitat participatif de Villejean. Là, on est vraiment sur complètement autre chose, mais qui a aussi une dynamique positive sur le quartier. Et puis, ils sont aussi dans la volonté beaucoup d'ouvrir cet habitat participatif. On a rencontré les majorettes rennaises.
Ah oui, cette histoire.
Ça, je suis obligée d'en parler.
Waouh, ah oui.
On a pas le choix. En fait, en 72, les majorettes rennaises naissent et il se trouve que les majorettes rennaises répètent à Villejean. Alors, c'est assez ambitieux comme collectif. Elles répètent trois fois par semaine. Elles ont un sacré niveau. Elles sont, je ne sais pas, une cinquantaine de gamines. Enfin, voilà, il y a du monde. C'est très engagé physiquement. Enfin, c'est assez impressionnant ce qu'elles produisent. Et en 78, il y a une de ces jeunes majorettes rennaises qui s'appelle Chantal, qui a à peine 20 ans, qui devient leur capitaine. Et Chantal, elle est totalement dévouée à ses gamines, comme elle dit. Voilà, elle veut vraiment faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Et donc, pendant plusieurs années, comme ça, elle les accompagne. Et leur petite spécificité par rapport aux autres majorettes, parce qu'il y avait d'autres majorettes, pas à Rennes, mais dans la métropole, leur spécificité à elles, c'est qu'elles ne travaillaient pas au sifflet. Et qu'elles avaient de la musique enregistrée et pas de la fanfare, alors ce qui, elles, leur semblait une grande liberté, parce qu'elles pouvaient aller sur plein de styles de musique et des choses beaucoup plus modernes. Et aussi, elles avaient des costumes de dingue, et elles changeaient de costume quasiment à chaque morceau. Donc c'était vraiment, en tout cas, à chaque prestation, elles changeaient de costume. Donc elles étaient quand même très très repérées pour tout ça. Bref, tout a une fin. Au milieu des années 80, l'aventure se termine. Voilà. Et puis, à 2 ans, Chantal, donc la capitaine, se dit qu'elle veut retrouver ses filles. Alors, elle met tout en place pour retrouver ses filles, mais c'est compliqué, parce que il n'y avait pas Internet, elle a parfois que le nom de jeune fille, elles se sont mariées, donc elle met des annonces, elle passe à des radios, elle fait un travail de dingue, elle appelle des fois plein d'homonymes pour essayer de trouver la bonne personne. Elle va jusqu'à aller dans un cimetière pour laisser un mot sur la tombe de la mère d'une des majorettes pour retrouver la fille. Enfin bref, vraiment, elle va très très loin dans sa démarche et elle arrive à réunir une grande partie des majorettes de l'époque, enfin, en tout cas ses gamines, celles qu'elle a eues en tant que capitaine. Et elle organise une grande fête à la maison de quartier il y a un an et demi où elle réunit une quarantaine de majorettes. Et pour préparer tout ça, elle en prend 4-5 qu'elle connaît mieux et elles font une petite surprise, elles refont une petite chorégraphie qu'elles avaient appris il y a 40 ans. Quoi. Donc cette merveilleuse fête se fait, il y a plein de monde, tout le monde est très ému, c'est formidable. Et puis ça se termine et Chantal se dit « merde, quand même ». Non, elle se dit pas « merde » parce qu'elle est, elle parle mieux que moi. Elle se dit « c'est dommage quand même, il faut continuer ». Et elle continue. Et donc, elles reprennent du service. Alors, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont 5-6, mais elles s'entraînent. Elles ont, je crois, aujourd'hui 3 chorégraphies, une avec un bâton, une avec un pompon et l'autre, je ne sais plus. Elles n'ont plus des costumes de majorette, elles sont en jean et en t-shirt et en basket, mais elles ont encore un niveau de dingue, parce que c'est des filles qui s'étaient beaucoup, beaucoup entraînées. Et elles font maintenant des majorettes vintage, et depuis un an, quelque chose comme ça, elles font des prestations, elles vont dans les EHPAD, elles vont dans les fêtes, dans les festivals, et elles font les majorettes vintage de Rennes. Voilà, donc ça c'est quand même une super histoire, je trouve, sur le quartier de Vigan. Et elle répète, évidemment, encore à la maison de quartier de Vigan. Toujours.
C'est beau. Ça me met de l'émotion, l'engouement que tu mets dans le récit que tu en fais. Je trouve, c'est comme si... Enfin, je trouve ça assez beau. C'est comme si ça dépassait aussi l'objet. C'est que maintenant, ça fait un peu partie de toi. J'ai l'impression, dans comment tu le racontes, c'est comme si tu étais devenue une passeuse de récits qui permet de faire exister les histoires. Je trouve ça beau, quoi.
Mais c'est touchant aussi, ce que les gens nous livrent. C'est comme si on avait une responsabilité aussi à les retransmettre après, tu vois, ces récits. Et non, ça me paraît important. Effectivement, j'en ai parlé beaucoup, c'est vrai, t'as raison. Des majorettes, mais aussi des cafés du dimanche. Enfin, y a vraiment plein de choses qui sont très, très intéressantes à partager pour continuer à donner cette image autre de Vigan.
Et ça fait du bien je sais pas, ça fait du bien et ça me renvoie au moment du vernissage que vous avez organisé, c'était en fin janvier, ou c'était début février, mi-janvier. Et pendant ce vernissage, les différents collectifs ont pu prendre la parole, s'exprimer, raconter un peu ce qu'ils et elles faisaient. Et je trouvais que c'était un moment hyper émouvant. Enfin, moi, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'émotions à déjà voir toutes ces personnes du quartier qui se réunissaient dans le centre social. Et puis de voir les personnes qui étaient... Il y avait un sentiment de fierté qui émanait de leurs paroles, quoi. Un sentiment j'imagine qu'il y avait de la reconnaissance envers ce qui avait été fait, mais ouais, de la fierté de on prend la parole, on est là, voilà ce qu'on fait. Je sais pas, je suis ressortie de ce moment avec plein d'énergie, en mode ouais, c'est trop stylé.
Mais nous aussi, ça nous a fait ça. c'est vrai que c'était un super beau moment. Mmh. C'était très beau, avec des personnalités hyper différentes. Donc il y avait Chantal, la capitaine, mais il y avait Stella, donc de Solo et Forte. Il y avait Zaïd et Simone qui ont parlé du café du dimanche et des gens très différents. Et il y a eu un moment très très mignon aussi où donc Stella qui, on l'aura compris, est quelqu'un qui prend la parole très facilement et très enthousiasmante, tout ça, a aidé une autre, Keltouman, donc qui s'occupe de l'association par handicap, qui est plus timide, l'a vraiment soutenue pour qu'elle puisse prendre la parole et elle aussi parler de son association. Ça, j'ai trouvé ça, moi, super beau, tu vois, cette dynamique-là de ces deux femmes qui ne se connaissent pas beaucoup, tu vois, mais qui, à un moment donné... sont ensemble pour valoriser ce qu'elles apportent de chouette au quartier, quoi.
Je trouve que ça montre aussi à quel point c'est aussi important de travailler sur des projets à une échelle locale ou ultra-locale à l'échelle d'un quartier. Enfin, moi, je voulais un peu aborder les impacts que ça a pu avoir, le projet. Je trouve que c'est assez... ce vernissage, il était assez significatif de l'impact que ça peut avoir sur les personnes, dans le sens où je trouve que déjà, la valorisation que d'être dans ce livret, ça avait l'air ouf pour les personnes, quoi. Elles avaient l'air trop, trop contentes, et je trouve que c'est déjà... en tout cas, moi, je crois beaucoup au fait que les projets à l'échelle locale ou ultra-locale, à l'échelle de quartier, ça peut faire beaucoup plus de bien que des projets à une échelle nationale, parce qu'il y a plus de liens, en fait, avec les personnes, et ça permet de se connecter les uns les unes les autres. Mais c'est assez significatif, là, dans ce que tu dis, que c'est là à aider la personne à prendre la parole. C'est qu'il y a ça renforce des liens qui sont déjà existants, hein. J'imagine que les liens étaient déjà là, mais ça crée quelque chose, quoi, une dynamique, une belle dynamique, je trouve.
Oui, c'est un des enjeux de ces projets-là, de tous les projets qu'on fait. C'est de créer des dynamiques au sein des quartiers et de faire en sorte que des gens qui ne se parleraient pas se parlent. Et voilà, en fonction plus ou moins des projets qu'on fait, il y a plus ou moins... Enfin, voilà, les gens viennent parfois se rencontrent plusieurs fois, et donc ça crée plus de liens forcément entre les personnes que d'autres. Mais quand même, globalement, il y a cette volonté toujours de créer ces dynamiques sur les quartiers. Et ça marche vraiment. Enfin, modestement, à petite échelle, vraiment à petite échelle. Mais voilà, on a vu plein de fois des gens qui jamais de la vie ne se parleraient devenir à moitié proches et prendre des cafés ensemble, quoi. Enfin, vraiment. Ça, c'est assez joli. Je crois même qu'on a eu un début d'histoire d'amour.
C'est pas vrai?
Pas là, hein, pas là.
Oh, wow.
C'est longtemps.
C'est pas vrai.
Si, si, je crois. Non, mais voilà. Bon, évidemment, tout ça est très petit. Mais parfois, quand on travaille sur cette histoire de valorisation et d'écoute, là, je parle beaucoup, mais quand on est en entretien, je parle très peu. on écoute, on ne fait que ça, on ne fait que écouter et voilà, poser des questions pour relancer, mais beaucoup on écoute. Oui, ça peut avoir un impact très positif pour les gens, de se sentir écouté, de se sentir valorisé. Oui, en tout cas, ça ne peut pas leur faire de mal, c'est certain.
Non, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez, après coup... Parce que je ne sais pas quand est-ce que vous avez enlevé votre niche du centre social, mais est-ce que vous avez pu, après le vernissage, croiser des gens? Vous avez eu des retours, un petit peu des personnes
Un petit peu, ouais. On a déniché, non, on ne dit pas ça, oui. fin janvier, donc ça a été assez rapide quand même entre les deux. Est-ce qu'on a eu des retours? Oui, plutôt du vernissage, en fait, où les gens étaient vraiment fiers, effectivement, d'avoir pu prendre la parole. Et ça, c'est vraiment important pour nous aussi, quand on fait des vernissages ou qu'on partage les projets, de laisser la parole aux participants. Parce que vraiment, ça participe du processus d'appropriation du projet. C'est super important, ce temps-là. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu pas mal de, effectivement, de retours sur un peu ce que tu disais, que les gens étaient assez émus, pas que ceux qui avaient pris la parole, mais ceux qui ont écouté aussi étaient assez émus. Et voilà, on a, le centre social nous a demandé de faire une petite session supplémentaire parce que peu d'usagers du centre social étaient présents finalement à ce vernissage, et donc on a fait une deuxième session fin janvier là pour partager avec une petite quinzaine d'habitants en plus qui n'étaient pas là sur le vernissage.
C'est bon, tu peux ouvrir. Vas-y. Il attendait pour ouvrir la porte.
Ah, c'est gentil.
Il attendait ta phrase. Et moi, ça me donne envie de te poser la question, mais où est-ce que vous avez mis votre nouvelle niche?
Alors, je te disais tout à l'heure qu'on allait que sur les quartiers prioritaires et bam, je me prends les pieds dans le tapis parce qu'on n'est pas sur les quartiers prioritaires.
Ah, où êtes-vous?
Nous sommes à Beaulieu, à l'IUT Carrière Sociale, parce qu'on débute un nouveau projet qui s'appelle De Beau Lendemain et qui est un projet plus ambitieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, on développe plutôt des projets qui sont sur 6 mois et à l'échelle d'un quartier. Parfois de 2, mais c'est assez rare. Là, on s'est dit, allez, maintenant, on a été quand même dans pas mal de quartiers prioritaires de la ville. On connaît pas mal d'acteurs. On y va, on se lance, on fait un projet plus ambitieux. Et donc, on a imaginé un projet sur un an et demi, à l'échelle de tous les quartiers prioritaires de la ville. C'est un projet qui va allier recherche et société, d'où notre présentable Beaulieu, puisque dans toute la première partie du projet, on fait le lien entre les quartiers et la recherche. Et on travaille en plus avec les étudiants de l'IUT Carrière Sociale, donc voilà, ça permet d'être sur place. Et puis, dans la seconde partie du projet, à partir de septembre, on sort au centre social de Maurepas, qui est donc le seul QPV sur lequel nous n'avons pas travaillé. Donc on s'est dit que c'était judicieux qu'on s'installe là, même si on va vraiment, du coup, être présent dans les 5 quartiers prioritaires de la ville et les 6 centres sociaux qui existent sur ces quartiers. Voilà, donc ça s'appelle De Beau Lendemain, une broderie participative du monde d'après. Et ça parle encore une fois de récits positifs, mais cette fois pour le futur. Tout ce lien voilà, à essayer d'imaginer des récits positifs va prendre forme à travers une grande broderie. Ça nous intéressait bien comme média, parce que c'est un média où il y a le temps, où il faut prendre le temps et où on peut partager. Pour l'instant, on imagine qu'il va falloir entre 50 et 100 brodeurs, brodeuses à l'échelle de la ville pour créer cette grande broderie qui s'inspire de la tapisserie de l'Apocalypse, qui est une immense tapisserie qui est à Angers. Une tapisserie médiévale qui raconte l'Apocalypse, donc la fin du monde, selon Saint Jean. Et nous allons faire une broderie de l'anti-Apocalypse, qui sera plus modeste en taille, puisque la tapisserie d'Angers est faite, je crois, 116 mètres, enfin, elle est immense. Mais on reprendra la structure de cette tapisserie. Et d'ailleurs, nous allons faire une sortie avec des usagers, plus de 70 usagers des centres sociaux, en mars, pour aller voir la tapisserie et lancer ce projet.
Wow. Et comment est-ce qu'on peut suivre toutes vos aventures?
Eh bien, nous avons un site internet qui s'appelle très simplement agencesensibles.com. On est sur Insta, oui, on est sur Facebook et on est voilà, sur LinkedIn, enfin tous les réseaux un peu classiques.
Est-ce que vous avez un slogan à l'Agence Sensible?
Non. Mais il faudra peut-être qu'on y pense.
Je voulais dire, on pourrait terminer avec les slogans de l'Agence Sensible.
Non, pas ça.
Des récits positifs pour un monde sans...
Ouais,
il faudrait...
Il va falloir travailler. On va éviter les jeux de mots, parce qu'avec sensible, on peut, mais...
Ouais.
C'est toujours un peu malheureux.
Ouais, c'est vrai.
Mais on va y penser au slogan. Et c'est assez récent, ce travail sur les récits positifs. C'est pas forcément quelque chose qu'on a... Enfin, oui et non, on a toujours valorisé. Donc, dans la valorisation des personnes et des histoires, il y a toujours ce côté un peu positif. Mais de travailler vraiment sur cette histoire de comment construire des récits positifs, ça fait que 3-4 projets qu'on est là-dessus.
Quartier des Ondes, the voice of the street.
Quartier des Ondes, la voix des quartiers.